Vous écoutez France Culture.
7h42 minutes.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
En 2014, 19,5% des élèves de 3e étaient incapables de résoudre un problème de mathématiques de niveau CM2. C'est le résultat d'une étude du ministère de l'Éducation nationale publiée ce dimanche. C'est presque 5 points de plus qu'en 2008. Si l'on ajoute à cette récente information la 25e position de la France au classement PISA des 65 pays de l'OCDE, le constat sur notre école semble des plus inquiétants. Alors qualifié de maillon faible du système éducatif français, le collège est donc dans la ligne de mire. Dans le but affiché de contrer cette chute libre, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a présenté le 11 mars dernier sa réforme du collège, immédiatement tombée sous le feu des critiques. 2 mois plus tard, la contestation bat toujours son plein. Les enseignants opposés à cette réforme sont d'ailleurs dans la rue aujourd'hui même. Après avoir entendu sur France Culture et ici même au matin les politiques, notamment la ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière, le Premier ministre hier à cette antenne, et puis les intellectuels de tous bords, comme Charles Gardette hier soir avec justement Alain Finkielkraut, place à ceux qui devront mettre en application cette réforme et à quelques observateurs qui connaissent bien la question. Mais les enseignants eux-mêmes, tout d'abord, partagent-ils le constat donc largement répandu d'un collège en échec? Voient-ils dans l'accroissement de leur autonomie un signe de confiance ou le contraire? Pensent-ils que cette réforme va dans le sens d'une baisse des inégalités? Enfin, pourquoi, comme le disait hier le Premier ministre, l'école semble-t-elle si difficilement réformable? Voici quelques pistes de questions que nous poserons à nos nombreux invités ce matin. Ladies first, bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Bon, on va pas dire que vous êtes prof, vous l'avez été un petit peu.
Non, pas du tout, jamais. Toujours fort à l'école, mais jamais prof.
Oui, enfin, pas du tout, du tout.
Ah non,
je pensais qu'il y avait une petite expérience d'enseignante.
Il n'y avait pas de place en 80 au CAPES en lettres classiques.
Ah oui, mais toujours fourré à l'école quand même. C'est ce qui fait qu'on croit que finalement vous finissez par l'être. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a une espèce de côté comme ça qui agrège.
Voilà, vous avez donc, vous connaissez bien la question, en tout cas des classes et de l'enseignement. Nous sommes aussi avec Claire Crépeur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes secrétaire nationale de l'UNSA. Oui. Un syndicat qui n'a pas appelé à la grève à ce jour.
Absolument.
Nous sommes avec Marie-Caroline Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof de français dans un collège de Seine-Saint-Denis.
Oui.
Et vous seriez-vous plutôt favorable, on va dire, à la contestation de ce projet, enfin avec des indécisions, nous y reviendrons avec vous. Nous sommes avec Bruno Riendel, bonjour à vous aussi. Vous avez été professeur d'histoire dans le secondaire.
Je le suis encore.
Et vous l'êtes encore, oui. Et vous publiez aux éditions de... Attendez, il faut que je regarde ça, voilà.
L'artilleur,
vous publiez Considérations inconvenante sur l'école, l'islam et l'histoire en France à l'heure de la mondialisation. Et puis, nous sommes avec un sage, Claude Sebel, bonjour.
Bonjour.
Inspecteur général honoraire de l'INSEE qui a longtemps et toujours encore planché sur des questions d'éducation. J'allais vous présenter comme le sage neutre de cette émission, mais en fait, vous n'êtes pas tant que ça. Si j'ai bien lu Le Monde daté de ce 19 mai, vous publiez, vous, une tribune signée par plusieurs autres contributeurs, notamment plutôt favorable à la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Et puis nous sommes avec l'homme de l'art sur France Culture, Hakim Kasmi, qui nous accompagne dans cette émission. Peut-être d'abord avec vous, Marie-Caroline Le Gall et Claire Crépeur, qu'est-ce qui coince?
En fait,
Marie-Caroline Le Gall.
Oui, je suis assez mitigée en fait sur cette réforme. Je ne suis pas contre. Voilà, je ne pense pas que tout est à jeter. Je ne suis pas non plus complètement pour. En fait, ce qui coince, c'est 2 choses en tout cas pour le cas spécifique des établissements comme celui dans lequel j'enseigne. C'est que nous sommes sous le feu de 2 réformes, la réforme de l'éducation prioritaire et la réforme du collège. Et que les deux vont être à mettre en place avec en fait finalement... Enfin, la mise en place va être assez difficile, je pense, au niveau des dotations horaires. En fait, moi, c'est surtout ça qui me pose problème, c'est que il y a des belles idées, il y a aussi une réforme qui est nécessaire. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est sa mise en place, en fait. Et je pense que c'est ce qui inquiète aussi, surtout mes collègues.
Bon, voilà. Mais essayons quand même. Oui, d'accord. Pour être plus clair, qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Est-ce que vous partagez le constat de ceux qui sont contre cette réforme, en tout cas, ou qui disent qu'ils sont vraiment très indécis, on va dire, mais sur l'idée qu'elle ne rattraperait pas l'échec que l'on connaît aujourd'hui dans le collège, que la question, par exemple, des EPI n'est pas une bonne solution, l'autonomisation des professeurs, est-ce que c'est ça, par exemple, qui coince? Est-ce que cette réforme-là risque de faire baisser le niveau plus qu'il n'en est aujourd'hui?
Non, ça, je ne pense pas que ça fera baisser le niveau, même si sur les EPI, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais en fait, je pense qu'on pourra faire toutes les réformes qu'on veut, on pourra en faire des millions. Je pense que la seule chose qui pourra faire réduire les inégalités, c'est la mixité sociale dans nos établissements. Et tant que nous n'aurons pas la mixité sociale dans nos établissements, et je parle puisque j'enseigne en éducation prioritaire où il n'y a aucune mixité sociale, hein, j'enseigne en REP+, et nous n'avons pas de mixité sociale. Et je pense que tant que nous n'aurons pas ça, et tant que les enfants à qui j'enseigne ne pourront pas partager les cours avec d'autres élèves qui sont plus favorisés, je pense que la réforme sera vaine en fait.
Claire Crépère, ouais. Même oui. Question. Est-ce que vous partagez d'abord ce constat fait par de nombreuses études que ça ne va pas très bien et qu'ensuite, vous, est-ce que vous pensez que cette réforme ne va pas dans le bon sens pour améliorer le niveau de nos chères têtes blondes?
Alors, quand on regarde les résultats moyens, oui, on voit bien que nos résultats se dégradent. Mais le collège fonctionne bien pour certains et fonctionne mal pour d'autres. C'est surtout ça que je crois qu'il faut qu'on dise. Il y a vraiment des écarts qui se creusent entre nos élèves les plus fragiles et ceux qui sont les meilleurs et qui restent, grosso modo, à peu près aussi nombreux et qui, eux, profitent largement, et c'est tant mieux pour eux, du système tel qu'il est. L'important maintenant, c'est de s'adresser à ces élèves très fragiles qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus faibles et qui ont une énorme difficulté ensuite pour s'insérer socialement, professionnellement, civiquement, citoyennement. Enfin, on peut ajouter d'autres adverbes derrière ce mot. La réforme ne résoudra pas tout, mais il faut penser que cette réforme du collège n'est pas isolée, c'est une réforme systémique. C'est une réforme, comme on dit avec les grands mots qu'on utilise dans l'éducation nationale, curriculaire. C'est-à-dire qu'elle touche à l'organisation du collège, effectivement. Pour d'ailleurs essayer de promouvoir davantage de mixité, alors pas au niveau entre les établissements, parce que ça relève d'une autre réforme que la réforme du collège, mais elle essaye de promouvoir la mixité sociale et scolaire à l'intérieur du collège, dans les différentes classes du collège. Et c'est quelque chose qui est très important. Vous l'avez dit, il faut qu'il y ait des élèves de tout niveau dans nos classes, et il faut que mes élèves, ce que vous disiez sur votre collège de REP+, il faut que mes élèves de REP+, ils y aient aussi dans leur classe des bons élèves. Donc ça, c'est important à travailler, et c'est une des pistes intéressantes travaillées par la réforme.
Mais
il n'y en a pas que ça.
Et quelle piste?
Il y a aussi les programmes.
Laquelle de pistes? Qu'est-ce qui résoudrait ça?
Alors, la piste dont je parle, c'est la piste qui constitue la suppression des classes bilingues en sixième lorsqu'elles ne sont pas en lien avec la poursuite de l'apprentissage d'une langue autre que l'anglais en primaire. C'est aussi la transformation des classes, ou plutôt des options européennes, en quatrième et en troisième, la transformation sous la forme donc de ces fameux EPI dont on parle beaucoup, qui seront ouverts à tous les élèves et donc qui ne sont pas proposés en plus aux meilleurs élèves. Voilà des pistes intéressantes pour constituer des classes plus hétérogènes et pour que tous les élèves bénéficient de pédagogie, de projets, de pédagogie interdisciplinaire qui, pour l'instant, il faut bien le dire, sont très souvent, trop souvent, réservés aux meilleurs élèves, ceux qui font les classes bilingues et ceux qui font les classes européennes.
On va finir autour de table, Hakim, d'abord. Bruno Riondel. Oui.
Alors moi, je voudrais peut-être me centrer beaucoup plus sur un point précis, celui de l'enseignement de l'histoire. Moi, je constate que le programme pose comme enseignement obligatoire l'islam. En revanche, d'autres thématiques, comme la chrétienté, comme les Lumières, deviennent facultatives. Ça, c'est un premier problème. Je crois qu'on a des jeunes qui sont en difficulté d'intégration et je crois qu'il serait préférable de les arrimer à notre culture plutôt que d'essayer de
Mais ça n'est pas déjà le cas. Je vois, en quatrième, les cours sur les Lumières existent. Déjà, de toute façon, il n'est pas question de les remettre en question dans la loi.
Question d'en faire un enseignement facultatif.
Marie-Caroline Lebel, je crois que c'est plus le cas, ça. Hein. C'est plus du tout facultatif. Hein. Ça reste, c'est enseigné en quatrième aujourd'hui.
Oui, c'est enseigné en quatrième, absolument. Mais je crois qu'il y avait une modification à ce niveau.
Non. Enfin, Marie Desplechin.
Ben non, je pense pas. Je pense que et ces programmes sont pas bouclés en plus. C'est-à-dire cette espèce d'attaque ciblée a été démentie. Et il va avoir, je pense, Azéma et bon, il y a encore des négociations. Je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il y a pas de quotidien qui
Marie-Caroline Le Gall.
Excusez-moi, moi ça m'exaspère un petit peu en fait que justement tout le débat, c'est vraiment focalisé sur un point du programme d'histoire qui, par ailleurs, comme disait Marie Desplechin, n'est pas encore arrêté. On est consulté en fait hein, sur ce programme.
Parce qu'il n'est pas bouclé.
De plus, parallèlement au fait que il y a cette histoire d'islam et de chrétienté. J'aimerais bien que on puisse pouvoir parler d'éducation sans toujours recentrer le débat et plutôt tourner les yeux toujours vers nos enfants issus de l'immigration. Moi, ça m'a exaspérée. J'ai l'impression que tous les débats passionnés autour de la réforme du collège se sont vraiment excités là-dessus.
Si je puis me permettre, et j'aurais du coup avoir l'avis d'Hakim Kaspi aussi, qui est un spécialiste de la question, il est vrai que aux questions qu'on vous pose, il est surprenant. Vous embrayez tout de suite sur ce qui coince, selon vous, c'est des questions autour de la mixité sociale. Et alors que la presse, elle, n'a parlé finalement que du risque ou pas, qu'il y ait du latin, qu'il n'y ait plus de latin, qu'il n'y ait plus des lumières ou pas de lumière. En l'occurrence, c'est pas ça, vous, selon. Vous n'êtes pas forcément représentatif de tous les enseignants, mais on va dire que vous êtes des enseignants comme d'autres. Pour vous, c'est pas ça le problème.
Et je pense qu'il est important de rappeler à vos auditeurs, s'ils ne le savent pas, que l'islam est déjà enseigné en classe de 5e
depuis 50 ans,
De très nombreuses années.
Le problème n'est pas de l'enseigner. C'est d'en faire peut-être une discipline obligatoire, alors que d'autres deviennent facultatives.
Comment pouvez-vous utiliser le terme discipline obligatoire en parlant de l'islam ? Vous plaisantez ? On enseigne l'histoire, on n'enseigne pas l'islam.
Oui, l'histoire de l'islam, d'accord.
Il y a quand même une nuance importante. J'ai pas envie de polémiquer dès le matin, ça serait dommage. Et d'abord, ça ne serait pas de la polémique, mais ça serait une remise.
En fait, c'est surtout.
Tenons un discours de vérité, n'importe quoi.
C'est surtout une civilisation extrêmement importante, il faut quand même le rappeler, qui a eu des. On n'est pas en train de parler, on n'a pas mis de manière obligatoire comme enseignement l'islam de nos jours, enseignons le Coran, on met en lumière une civilisation, qui est extrêmement importante.
C'est une civilisation importante, absolument, mais je pense que ce qui est important, c'est d'intégrer justement les jeunes issus de l'immigration et que les arrimer à notre culture, c'est pour moi un point fondamental.
Oui, mais vous faites...
Pour pouvoir s'arrimer à une culture, il faut d'abord être arrimé dans la sienne. On ne peut pas se décentrer si on n'est pas centré. Faire découvrir et à faire découvrir à tous nos élèves tout ce que la civilisation musulmane ou islam, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, nous a apporté et a apporté au monde avant d'entrer dans ce type de discussion
C'est très idéologique, moi.
Je pense qu'il ne faut pas qu'on passe l'émission sur ce sujet. On passerait à côté de la réforme du collège.
Et aussi, c'est quand même assez fâcheux d'opposer notre civilisation et l'islam.
Ne pas passer l'émission sur ce sujet, vous n'avez pas tout à fait tort, Clark Kepper. Le fait est quand même qu'on a bien vu des débats autour de ces questions-là, quand on a cru que l'enseignement des Lumières était totalement facultatif, c'est vrai que certains se sont émus en disant, le mois de janvier que nous avons passé, sur lequel nous vivons encore, il était étrange que cet esprit des Lumières, notamment réclamé par le Premier ministre, ne serait plus enseigné au seul profit, par exemple, de la question de l'islam. Mais il se trouve que ce n'est pas tout à fait le cas, Hakim Kaspi.
Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, la question de la mixité est très, très importante. On le voit bien, vous parlez par rapport à Charlie, ça crée beaucoup de tensions. Pourquoi ? Parce que manifestement, on le voit bien aujourd'hui, on dit qu'on veut de la mixité dans les classes, mais que voulez-vous faire quand vous avez des enfants qui sont nés en banlieue, qui vivent dans des HLM et qui ont pour seul objectif de pouvoir rester avec la carte scolaire que dans leur quartier ? Ça ne peut pas favoriser aujourd'hui la mixité. La mixité aujourd'hui, elle est très importante pour aller vers l'autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit même que c'est le contraire. Aujourd'hui, les gens se replient sur eux-mêmes. Et nous aussi, en tant que journalistes, on a aussi un gros travail à faire pour éviter.
Ah, ça va encore être de notre faute.
Non, mais
c'est notre faute à tous.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber aujourd'hui dans ce buzz médiatique de passer un jour c'est l'islam, un jour c'est le latin, un jour c'est les bilingues. Je pense qu'aujourd'hui, le problème est plus sociétal et que malheureusement, nos professeurs qui sont là aujourd'hui vont peut-être me contredire, mais que l'école ne peut pas tout. Car aujourd'hui, si on veut créer de la mixité, ça passe aussi par un plan urbanistique, ça passe aussi par une refondation au niveau des villes. Comment, par exemple, donner accès à la culture ? Par exemple, on ne le sait sans doute pas, mais il y a beaucoup d'enfants pour qui en banlieue, bah, venir à Paris, c'est une expédition. Exactement. Beaucoup ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, et aussi parce qu'aujourd'hui, et bah, culturellement, ça ne fait pas forcément partie du savoir des parents qui ont, bah, voilà, qui commencent tôt le matin, qui finissent tard le soir. C'est pareil pour l'accès aujourd'hui aux grandes écoles. On parle beaucoup en ce moment de l'élitisme républicain ou dynastique, comme le disait Jean-Jacques Belkacem. Mais là aussi, il y a des questions de code qui sont très importantes et que les élèves n'ont pas tous. Et ça, malheureusement, c'est très important si on veut créer de la mixité.
Alors, à ce stade-là, monsieur le sage Sebel, si l'on comprend que la question de l'école et des mauvais résultats n'est pas contestée, que la question de la mixité, il y a beaucoup de progrès à faire. Ça veut donc dire, comme vous le dites, vous, dans Le Monde, que le collège actuel n'est donc ni unique, ni juste, ni efficace. Alors, pourquoi ne pas vouloir le réformer ?
Je pense que la réforme doit aller à l'essentiel. Et l'essentiel, à ce stade, c'est le départ de la scolarité autour d'écoles et au début des lycées professionnels, 250 000 jeunes. Là, je rejoins tout à fait ce que dit Laurent Bigorde dans une tribune qu'il a fait dans Les Échos, ou ce que hier a dit Monsieur Larcher sur une radio amie et voisine. Notre problème, c'est une mobilisation. Nous ne pouvons pas continuer à mettre dans une insertion professionnelle qui sera ensuite désastreuse, 20% des générations de l'école et du collège. C'est le point clé. Alors, on a un certain nombre de pistes qu'on peut regarder. Et on en parlera peut-être tout à l'heure.
Bon, réécoutons ce que nous disait hier le Premier ministre.
Je pense que c'est difficile de réformer l'école. Qu'à chaque fois
qu'on parle de l'école... Tout court.
Oui, donc il faut réformer. Oui, mais l'école, parce qu'elle est au cœur de la construction républicaine, parce que depuis que Jules Ferry a construit l'école de la République, à chaque fois qu'on parle de l'école, il y a des débats. Mais peut-être parce qu'aussi derrière cela, il y a deux conceptions qui s'affrontent entre l'idée d'une école pour tous et une école seulement pour certains.
Alors, comment vous expliquez ça, vous, Marie Dupéchin, qui observez ce milieu ancien depuis très longtemps, qu'à chaque proposition de réforme, finalement, il y ait quelque chose qui semble bloqué, alors que les constats sont à peu près tous identiques hein, sur un niveau à relever?
Oui, on est tous d'accord. Après, vous posez une question qui est quand même très large, parce qu'elle tient à une forme d'esprit national et d'horreur terrifiée de la réforme. Parler de la réforme de l'orthographe, la moitié de la France ou les deux tiers s'évanouit alors qu'il y a longtemps qu'on aurait dû la faire. L'Allemagne et la Pologne ont réformé leur système dans un sens de plus grande mixité, de tronc commun. Ça a marché, leurs résultats PISA se sont améliorés et en France, on ne peut pas en parler. Donc moi, je ne pourrais pas apporter la réponse à ça, c'est une forme de pathologie. En même temps, c'est amusant, tout le monde s'excite sur des choses sans beaucoup d'intérêt. Comme vous le disiez, on risque de passer à côté du vrai débat. Mais évidemment...
Et selon vous, le vrai débat, il est la question de la mixité, à nouveau, la question sociale?
En tout cas, il est au cœur de cette réflexion. Donc, on voudrait dire, pour défendre cette pauvre Najat, que c'est en fait minuscule, cette réforme, à côté de ce qu'il faudrait faire. Mais c'est déjà pas mal.
Brice Couturier, comment introduirez-vous le débat à 8h15 ?
Écoutez, moi ce qui me semble l'essentiel dans cette affaire en réalité, c'est la mise à disposition des collèges d'un crédit d'heure correspondant à 20% des horaires. Il s'agit manifestement d'un premier pas vers l'autonomie des établissements qui fait peur aux partisans de l'uniformité. Et ma question c'est, puisque l'uniformité a échoué, tout le monde est d'accord sur le dire qu'il y a un échec véritablement de ce cycle, pourquoi ne pas donner sa chance à la diversité ?
Eh bien, donc ce sera la réponse des uns et des autres à 8h15